Nous sommes à Lyon le 14 décembre 2017. Plusieurs salles de l'université de Bron sont occupées pour loger près de 60 personnes exilées, mineures et majeures, qui jusqu'ici dormaient dans la rue ou à la gare. D'ici peu, ces personnes risquent de se retrouver encore une fois à la rue, rejoignant plusieurs centaines de migrants dormant déjà dans le froid. Cette situation n'est pas unique. Elle représente malheureusement la réalité de plusieurs villes françaises, comme Marseille, Nantes ou Toulouse, dans lesquelles des collectifs se mobilisent pour trouver des solutions d'urgence à la conséquence folle de l'invisibilisation opérée par la grosse machine de l'État français face aux migrations. Ce soir-là, nous faisons un tour des luttes qui existent aux deux zones frontalières, du côté de Vintimille et dans les Hautes-Alpes, à Briançon, ainsi que sur les leviers à actionner dans les villes et campagnes pour soutenir les hommes et femmes qui entament des procédures de demande d'asile et qui, après s'être retrouvés emprisonnés et torturés en Libye, enfermés dans les campos italiens et traqués dans les montagnes, se confrontent au tourbillon de l'administration française qui ne fait que se renvoyer la balle avec l'Italie sur la prise en charge de ces aventuriers et aventurières qui, a priori, ne sont pas au bout de leur peine. De nombreux documents existent pour rester informés sur le site internet de la CIMAD, du collectif marseillais El Mamba Migrant 13, sur les pages de Tous Migrants ou Roya Citoyenne, les collectifs de lutte aux frontières.
Je m'appelle Baldé Mamadaliou, je viens de la Guinée-Conakry. En fait, c'est des problèmes familiaux qui m'ont poussé de quitter le pays. Je n'avais pas quelqu'un qui allait me soutenir pour mes études. Je vivais avec un oncle qui ne me prenait pas pour son enfant. En fait, j'ai mon bac, j'ai voulu poursuivre mes études, mais je ne pouvais pas, j'étais dans une situation de merde. Du coup, tout ça qui m'a poussé de quitter le pays, et j'ai risqué tout ça, je suis venu. J'ai passé par le Mali, je suis venu en Algérie. J'ai fait 10 mois en Algérie. C'est dans ça que j'ai appris mon métier, le placo-plâtre, l'enduit, la peinture. Et du coup, je suis venu vers la Libye, je suis venu en Italie. Ils m'ont bien accueilli quand même. Ils ont descendu à Turin. Quelques jours après, ils m'ont pris là-bas, ils m'ont emmené dans un village qui s'appelle Gattinara, très loin de la capitale de Turin. En fait, là-bas, j'ai resté là-bas quelques semaines seulement. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans l'autorité, ils m'ont pris des empreintes, ils ne savaient pas. C'était pour une demande d'asile, ils m'ont juste emmené là-bas. Ils m'ont pris des empreintes, ils m'ont demandé si je veux réellement vivre ici. J'ai dit là, à condition que j'apprends la langue pour pouvoir bien communiquer avec les gens, être cool, quoi, et pas rester seulement assis, manger. Ils m'ont dit que c'était le moment de vacances, parce que c'était dans le mois de mai, je suis rentré là-bas. Ils m'ont dit d'attendre l'ouverture des études. Du coup, j'ai attendu ça, je voyais qu'ils m'ont... Ce qui ne paye pas au fait de moi, quoi, quand j'ai dit de m'aider à poursuivre mes études. En fait, j'étais là-bas assis seulement, manger et puis dormir, quoi. En fait, j'ai vu que c'était pas en fait ce que je voulais, quoi. J'ai quitté là-bas, je suis venu à Turin. Je suis quitté Turin, je suis venu à Bardanech, Briançon. Je suis venu à Bardanech à 21h. En fait, j'ai rencontré des amis, des camarades aussi qui voulaient venir. Parce que moi, j'étais seul, je suis venu jusqu'à là-bas, je n'avais pas de thune. Du coup, ils voulaient bouger à 22h. Je les ai suivis, on est venu, on a marché à pied. Et de 22h à 5h, du coup, on s'est rencontré avec les flics, les policiers sur la route. Ils nous ont chassés, On s'est caché quelque part et à une certaine, ils les ont attrapés parce que comme on était frais, tout près de maintenant de Briançon, moi je ne voulais pas qu'on m'attrape et puis qu'on me retourne là-bas. Et du coup, je me suis caché là-bas avec un frère ivoirien. On s'est caché là-bas jusqu'au matin. On ne pouvait pas aussi suivre la route et venir jusqu'à Briançon. On a passé toute la journée là-bas jusqu'au soir aussi. Dans la forêt, en fait, la nuit aussi, on a commencé de marcher, on est venu. On est rentré à Briançon vers 3 h du matin. Et du coup, il y avait une association là-bas, j'ai même oublié son nom. Ils nous ont donné de quoi boire et tout. Du café chaud, des trucs à manger. On s'est lavé, ils nous ont vêtus. Et le lendemain, ils nous ont demandé, on est venu faire quoi ici en France? Moi, j'ai dit que je suis venu faire une demande d'asile, vivre ici. Ils m'ont dit, je vais aller dans quelle ville? J'ai dit, je vais aller à Lyon.
Bah, je suis une des étudiantes qui sont dans le mouvement et l'occupation de l'Amphicé de Lyon 2 à Bron. Nous, on a accueilli des gens qui se sont fait expulser de la Part-Dieu le mercredi 15 novembre. Et du coup, bah, c'est le premier jour du début de l'occupation. On avait la peur justement que la présidente directe, elle appelle la police, chose qu'elle n'a pas faite. Tous les moyens que l'on a mis en place pour les squats ou pour une demande à la préfecture viennent toujours avec des problèmes. La préfecture, à un moment donné, nous a offert après 15 jours que la présidente était en train d'insister de pouvoir parler avec le préfet. Le préfet a offert un gymnase pendant 10 jours à mes yeux pour 50 personnes fichées. Et déjà, ils n'acceptaient pas les mineurs. 10 jours sans avoir vraiment quelque chose après, sans suivi, en disant ouais, non, mais les 10 jours peuvent se rallonger ou peut-être on va faire en sorte de. Mais bon, on sait bien que, quand même, avec les statuts que les gens ont, soit statut Dublin et même quelques-uns qui sont déjà en OQTF, bah, ça les met complètement en danger d'aller dans cette proposition faite par la préfecture. Alors du coup, on l'a rejetée. Et du coup, une semaine après, on est allé à la préfecture faire un rassemblement et faire une demande de délégation avec la préfecture. On a réussi quand même à avoir un contact avec la préfecture, mais pas avec le préfet, en faisant justement la demande de logement, mais aussi d'un changement de statut Dublin à un statut normal. Chose que ils ont rejeté en nous disant juste qu'ils rejetaient le fait du logement. Ils ne nous ont même pas parlé du fait de statut Dublin. Ils ont complètement omis cette information. Et en fonction du logement, la demande qu'on avait faite était d'un bâtiment particulier et ils nous ont rejeté cette possibilité parce qu'ils disaient que, comme toujours, hein, c'est la sécurité, c'est pas mis au point et que ce bâtiment allait être utilisé pour autre chose à un moment donné. On est expulsable à partir de lundi 18 décembre. Du coup, bah là, on essaye de mobiliser justement notre occupation et les occupations qui se passent dans d'autres facs, faire une communication interfac pour pouvoir faire des mobilisations nationales pour essayer d'atteindre et de sensibiliser de plus en plus les gens sur les situations qui... Il nous entoure de partout en France, quoi.
Il y a combien de personnes à la fac en ce moment accueillies?
On va dire que ça a commencé avec 50 personnes, à peu près. Et du coup, là, en ce moment, je pense qu'on doit être à 70-75 personnes. En comptant aussi des SDF. Il y a des gens qui ont des papiers. Mais qui n'ont pas où y aller non plus. Et du coup, on les a accueillis aussi. On a à peu près 15 mineurs et le reste sont des adultes. Il y avait deux femmes avec leurs enfants qu'on a réussi quand même à trouver un endroit relativement pérenne pour les reloger, pour que les enfants aussi puissent avoir une vie relativement stable. Et sinon, ouais, pour l'instant, c'est vraiment de chercher de reloger à peu près 75 personnes. Si vous voulez avoir un peu d'informations, notre page Facebook est Enfissé Solidaire. Et on a aussi un mail qui est occupation.enfissé@yahoo.fr. Aussi, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Interfac Solidaire qui essaye justement de communiquer avec toutes les facs qui sont en occupation. Alors du coup, ramener beaucoup de gens qui sont sur Nantes, sur Bordeaux, sur Marseille, sur Grenoble et à Lyon, en essayant de faire une communication interfac qui puisse peut-être donner vraiment... un mouvement national beaucoup plus impactant que d'une seule fac.
Le renvoi direct en Italie sur contrôle aux faciès.
Et quand on appelle les secours, c'est la police qui arrive.
Il y a vraiment une chasse au noir qui se mène avant Timis.
Gendarmerie, paf, sentinelle. Renforts du Sud, chasseurs alpins, légionnaires, patrouilles canines, rondes dans les sentiers d'école, en moto, en 4x4, patrouilles armées de femmes
adolescentes. Menaces terroristes permanentes.
Le prétexte, il n'est pas migratoire. Le prétexte, il est antiterroriste. C'est pas vrai. N'importe qui est blanc, qui passe en voiture dans cette frontière ne sera pas contrôlé. N'importe qui est noir. Voilà. T'es blanc, tu passes. T'es noir, tu passes pas. Voilà. T'es blanc, tu passes. T'es noir, tu passes pas. T'es blanc, tu passes. T'es noir, tu passes pas. T'es blanc, tu passes. T'es noir, tu passes pas. T'es blanc, tu passes. T'es noir, tu passes pas.
Briançon, pour l'instant, c'est l'urgence. Il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de choses à faire à la maison.
Deux espaces d'accueil existent à Briançon. Lieu d'accueil officiel, la maison CRS, collectif refuge solidaire. Lieu d'accueil institutionnel, symbolique du premier lieu d'accueil en France, une ancienne caserne de CRS, d'où le nom. Convention entre la communauté de communes et l'association qui émane plus ou moins de tous migrants, une association encore. Conventionnée pour accueil de 16 adultes et 7 mineurs. Aujourd'hui, on arrive à 95 personnes qui sont accueillies. Il n'y a pas de personnel recruté en psy, en santé, en juridique, en social, c'est que des bénévoles, mais ils pratiquent systématiquement le fichage et doivent évacuer les accueillis au bout de 2-3 jours. Fin juillet, à peu près au même moment, ouverture du squat chez Marcel. Plusieurs semaines de travaux, plein de visites de partout, les vocations de la maison ont changé du projet de départ. Accueil des potes soudanais supposés se faire virer du CAO, mais devenu rapidement un lieu de vie mixte pour 20 à 30 personnes et à la volonté d'accueillir à moyen et long terme celles et ceux qui ne savent pas où poursuivre ou préfèrent tout simplement s'installer sur Briançon. Chez Marcel, on essaye de s'organiser face à la frontière et pas que dans une perspective d'accueil humanitaire. Aujourd'hui, au col de l'échelle est impraticable du fait des chutes de neige cumulées et des dangers hivernaux jusqu'à moins 15 la nuit ressentie. Risque d'avalanche, mais quand même encore des tentatives de passage. La situation de blocage renforce la dépendance aux passeurs pour traverser. Encore la semaine dernière, on nous rapportait que les copains ils allaient chercher 5 personnes qui arrivaient à passer et qu'après, on ne sait pas combien de personnes restent à la montagne ou sont reconduites aux frontières. La militarisation aujourd'hui est toujours forte et relève de la mise en danger explicite des gens concernés. Les flics sont méprisants avec les migrants. Les reconduites sont faites dès que les secours n'insistent pas pour emmener tel ou tel à l'hôpital pour blessures ou engelures, malgré les températures. Passage retenté les jours suivants pour les perdants. Certains passent 5 jours dans la montagne. Chez Marcel, gros coup de blanc au moral. Des potes vivant ici en procédure et désormais avec des perspectives moins lumineuses en France. Nous galérons quand même un peu dans certaines dispersions entre les mille et une choses à faire et situations souvent vécues comme des urgences. Aussi, près de cette salle frontière. Un certain ralentissement sûrement dû au maître de neige dans le jardin qui complique aussi un peu les tâches quotidiennes. Un des copains nous rend visite cette semaine. Il était à la maison avant, il va devoir partir à Prada, à Gemenos. Là-bas, comme à Vitrolles, on peut se faire arrêter du jour au lendemain. Plus ou moins expulsé en Italie de manière violente et sans passage devant le moindre témoin ou juge, mais devant les potes pour montrer ce qui les attend. Prada, 60 hôtels en place, l'avenir des Dublinais en France, voir les articles nombreux qui existent sur Internet. On a vraiment l'impression, en regardant cette année 2017, d'une casse complète des droits des étrangers majeurs ou mineurs. Majeurs dublinés systématiquement voués à l'expulsion, sans possibilité réelle d'asile ici, et mineurs piégés par la démission de l'État décentralisé. 2017, encore une belle année de violence systématique de l'État dans ses multiples pratiques à l'encontre des indésirables. Depuis la frontière physique jusqu'au campo isolé, et outre la palette des violences, l'hypocrisie et le mensonge sur les actes programmés et exécutés, le déni des responsabilités des administrations et de leurs agents, qu'on pourrait nommer nombreux, qui envoient des mineurs à la rue en hiver, ou d'autres en pleine montagne à crever peut-être, espère-t-il.
Il y a des copains avec leur extrait de naissance qui prouvaient qu'ils étaient mineurs. On leur a dit, non, t'es pas mineur, t'es majeur. Bah ok, je suis pas mineur, bah qu'est-ce que je fais? Bah je vais aller faire une demande d'asile. Et quand il va faire sa demande, ah non, on peut pas s'occuper de toi, t'es majeur.
On a eu des informations d'un citoyen qui a une auberge dans un petit village et qui nous dit que lui a déjà vu des policiers venir avec des caméras thermiques pour voir par où passent les copains justement et les copines par les montagnes, repérer les passages, qu'il a même vu des parapentes lâchés d'hélico, donc il y a de la police, de la gendarmerie, qui était là pour surveiller aussi les passages. Et donc tout ça, c'est bien sûr du contribuable.
Elle constitue l'un des principaux, observatoires des politiques de gestion des flux migratoires au niveau européen. Et effectivement, les paradoxes qui viennent se créer par ces politiques sont bien visibles depuis cette petite ville frontalière. Il y a une situation de tension très très forte à Ventimiglia et la situation s'empire de plus en plus. Il faut quand même rappeler que cette frontière, elle existe depuis presque deux siècles, en fait, depuis 1860. Il y a beaucoup de personnes, les juifs, par exemple, les antifascistes, qui fuyaient l'Italie et qui, du coup, devaient passer par, qui devaient, du coup, traverser cette frontière. Donc, je pense que c'est important de le souligner pour ne pas penser à chaque fois à l'immigration comme des urgences, des émergences, parce que c'est comme ça qu'elles sont traitées en ce moment, et non pas comme, comme une question, un problème structurel, en fait. Donc voilà. Et cette frontière, du coup, depuis 1990, il y a eu donc l'instauration de l'espace Schengen. L'espace Schengen qui prévoyait donc l'effacement des contrôles des frontières internes aux pays européens, donc pour pouvoir créer un espace de libre circulation. Et donc c'est les contrôles appliqués aux frontières internes, ils devaient être supprimés. Mais en fait, dans les acquis du Schengen, donc, il y avait, on introduit la possibilité de, un, rétablir des contrôles aléatoires et mobiles, et de deux, de suspendre temporairement l'espace Schengen lorsque le pays le estime nécessaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? À l'approche de la COP21, la France rétablit le contrôle à ses frontières pour un mois. Ensuite, le soir même, il y a eu les attentats de Paris. Donc, la France, elle prolonge et renforce le contrôle à ses frontières. Et de facto, elle ferme les frontières avec ses frontières, donc la frontière avec l'Italie aussi. Et là, en fait, on en est au fait qu'on discute sur comment intégrer l'état d'urgence dans les droits communs. Donc, on voit bien que la situation ne va pas changer, même elle va empirer peut-être. Et donc, cela a été justifié par la présence d'une menace terroriste permanente, en fait. Qui va empirer encore la situation, c'est le règlement de Dublin, donc qui oblige les migrants à faire leur demande d'asile là où ils ont déposé pour la première fois leurs empreintes digitales. Donc, ce qui signifie que, évidemment, la majorité des personnes doivent laisser leurs empreintes digitales dans le sud de l'Italie, là où ils débarquent en fait. Ils sont condamnés en fait à demander leur à faire leur demande d'asile en Italie, alors que vraiment, la plupart des cas, les gens ne veulent pas rester en Italie, ils veulent poursuivre leur parcours. Donc voilà, en fait, le règlement Dublin, il insère vraiment les migrants dans un jeu épuisant avec les frontières de renvoi, d'avancement et de renvoi, enfin surtout de renvoi. Et voilà, et j'ai pu un peu discuter avec, par exemple, le migrant qui occupe actuellement l'amphithé à l'université de Bron, le meilleur lieu d'eux. Et effectivement, leur problème majeur, en fait, c'est ce règlement Dublin qui les oblige, en fait, à revenir en arrière. Il y a vraiment une chasse au noir qui se mène à Ventimille, c'est-à-dire que les policiers, les militaires français et italiens, ils vont donc chercher dans tous les lieux un peu stratégiques, donc la gare de Ventimille, la gare de Montongaravin, sous les ponts. Voilà, ils vont chercher des migrants en situation irrégulière, possiblement, pour pouvoir donc les arrêter. Et les transférer. Donc notamment, par exemple, on peut voir ça dans la gare de Montongaravin. À chaque fois qu'il y a un train qui arrive, en fait, les policiers rentrent dans les trains, cherchent toute personne qui a la peau de couleur noire. Donc c'est un contrôle complètement au faciès. Et ils les font descendre avant même d'avoir vérifié qu'ils sont en situation irrégulière, effectivement. Ils les font descendre et ils les amènent à la PAF, au poste de la PAF, en frontière, à la frontière haute, donc celle niveau montagne. Donc de là, ils reçoivent le refus d'entrée. Et donc systématiquement, ce papier est donné. Les gens ne sont pas informés de leurs droits. Très souvent, ils ne parlent pas français, donc ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il leur a expliqué. Et donc, c'est un peu pour souligner les aspects, la dimension illégale de tout ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Ils font signer ces documents dont les gens, la plupart des fois, ne comprennent absolument rien. Très souvent, les cases en plus sont déjà cochées, donc il n'y a pas la possibilité de changer. Les gens ne sont pas informés de leurs droits. Donc, par exemple, le fait de pouvoir avoir droit à un avocat, un interprète, le droit à un jour franc. Voilà. Et c'est surtout, ce qui fait peur, c'est surtout la condition des mineurs isolés. Ils sont traités absolument de la même manière. Donc, ils leur donnent le refus d'entrée. et il les renvoie en Italie. Donc, s'ils ont de la chance, ils sont renvoyés en Italie, par Valentini, du coup. S'ils n'ont pas de la chance, ils sont, du coup, ils les font monter dans les bus à destination du sud de l'Italie, notamment la ville de Taranto, où il y a un gros hotspot. Donc, ces voyages, ces trajets, ils sont assurés par la compagnie locale Riviera Trasporti. Ces trajets, ils sont vraiment très chers parce qu'ils coûtent presque 5000 euros par bus, par voyage. Parce qu'en plus, ils sont escortés par des camionnettes de flics. Et ils sont très souvent inutiles parce qu'une fois que les migrants ils arrivent à l'hotspot, en fait, les conditions d'accueil de cet hotspot font que les migrants sont très souvent juste relâchés et du coup, après quelques heures, ils sont déjà sur un train, dans un train en direction de Ventimiglia. C'est très probable, en fait, de croiser des gens qui vous racontent ça et qui vous disent qu'ils ont fait les trajets même 6-7 fois. Les migrants ne veulent pas aller au camp de la Croix-Rouge parce que donc ils doivent laisser leurs empreintes et même si on leur explique qu'en fait ils les ont déjà laissés une fois et donc ça ne va pas changer grand chose, on voit vraiment que c'est un choc psychologique presque qui amène les gens à avoir vraiment peur du simple geste de laisser les empreintes digitales. Donc c'est assez fort quand même. Et du coup, voilà, la plupart restent quand même à dormir sous les ponts, dont compris femmes et enfants. Femmes et enfants qui, avant, dormaient dans une église qui se trouve à côté du pont, qui a été expulsée cet été en septembre 2017. Avant de parler d'humanitaire, c'est de l'humanité. Je crois vraiment qu'il y a des passerelles à faire, notamment dans les grandes villes. Parce que les copains qui se retrouvent à la campagne, il y en a plein qui ne veulent pas forcément se retrouver à la campagne. Ils viennent ici, ils ont besoin de formation, ils ont besoin aussi de gagner des sous, de travailler. C'est des choses, on a l'impression que c'est toujours pas un rapace, ça prend du temps. Mais en fait, les solutions, c'est aussi à nous de les créer. Et dans les villes, c'est vraiment compliqué parce que quelqu'un qui dit qu'il a traversé le Niger, qui a traversé... qui est allé en Libye, qui a traversé la mer, qui est arrivé en Italie, qui est arrivé en France, qui dit « je veux aller à Paris ». Bah ouais, à Paris, bah oui, c'est dormir dehors, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens, les réseaux sont sursaturés, que tu sois mineur, que tu sois majeur. Mais quelqu'un qui veut aller à Paris, moi je ne vais pas l'empêcher d'aller à Paris, je veux juste qu'il soit bien dans sa vie.